France Culture.
Réplique, David en majesté, avec Patrice Guénifet et Stéphane Guégan. Centenaire de sa mort, le musée du Louvre a eu l'heureuse idée d'organiser une grande rétrospective de l'œuvre du peintre Jacques-Louis David. J'ai vu cette exposition et j'ai été frappé, fasciné même, par la toile montrant Marat assassiné. J'avais déjà vu des reproductions, mais comme on dit un peu gauchement, en vrai, c'est autre chose. Je voudrais donc commencer par là l'entretien avec l'historien Patrice Guénifet, auteur entre autres d'un remarquable essai sur la violence révolutionnaire, politique de la terreur, et l'historien et critique d'art Stéphane Guégan qui vient de publier Matisse sans frontières. Comme nous sommes à la radio, je demanderai d'abord à Stéphane Guégan, familier de l'exercice, de décrire ce tableau célèbre de David. Stéphane Guégan.
Au fond, vous me demandez de faire ce que Diderot faisait dans ses salons, voilà. Quand il lui fallait évoquer des tableaux que ses lecteurs ne voyaient pas. Bien sûr, je ne suis pas Diderot, mais je vais tout de même essayer de vous parler de ce tableau qui, d'ailleurs, passe chez les amateurs de David comme le plus beau. Antoine Schnapper, en 1989, au moment du centenaire de la Révolution, dit que c'est le chef-d'œuvre. Baudelaire est d'accord. Oui. Bien entendu, on en reparlera. C'est donc un tableau qui se veut une pietà, une sorte de déposition de croix, mais une pietà profane, laïque, politique. On peint un martyr à la demande des conventionnels dont David est désormais membre. Eh bien, il peint ce tableau en 1793 très vite. Alors que Marat est assassiné peu avant le 14 juillet 1793. David organise d'ailleurs les funérailles de Marat. Oui. C'est une sorte de première peinture vivante. Et puis, car le corps se décompose, il peint le tableau pour l'offrir à la Convention. Il faut donner au conventionnel, dont il est, un exemple de vertu. L'exemple d'un homme qui aurait finalement passé sa vie entière à défendre les droits de la nation, le peuple, et qui se serait sacrifié, en tout cas, ou qui aurait été assassiné au nom de ses idées. Donc bien sûr, le tableau ne montre pas Charlotte Corday, qui était de sensibilité girondine. Le tableau ne montre pas non plus l'endroit exact où Marat a été assassiné, sa salle de bain, dont on sait qu'elle était décorée d'un papier peint à motif, qui avait une carte de France. Et David peint, à l'inverse, un grand fond noir. Un fond noir qui impose donc une sorte de solennité, de gravité et de religiosité. Ce que demande Robespierre à son ami David, qu'il appelle d'ailleurs le peintre de Brutus. C'est un tableau de piété. Un tableau de piété, un tableau qui rend hommage aux martyrs et qui emprunte les codes de la peinture religieuse. Codes qu'il connaissait bien, car quand on regarde les carnets romains du jeune David, on s'aperçoit qu'il dessine d'après l'antique, mais il dessine aussi d'après les tableaux religieux qu'il a découverts à Rome. Il transpose finalement le sacrifice politique dans l'ordre religieux et il fait une sorte d'icône, pour employer un terme aujourd'hui galvaudé, une icône de la Révolution et de la terreur. Car il s'agit aussi de rappeler que cet homme qui fut l'un des instruments de la terreur, Marat comme David d'ailleurs, est mort au fond de la violence qu'il a lui-même libérée dans la société française. Donc c'est un tableau qui va rester ensuite comme le plus exemplaire à la fois de l'art de David, de son invention poétique, mais aussi de ses convictions montagnardes. Et à cet égard, on comprend pourquoi les commissaires l'ont mis à l'épicentre, au fond, de l'accrochage.
Oui, mais alors, il faut ajouter qu'il est dans sa baignoire.
Il est dans sa baignoire, rougie de sang, sang. On voit au premier plan le poignard.
Oui.
Le poignard à manche d'ivoire. Alors, je me suis toujours demandé si ce poignard à manche d'ivoire connotait, au fond, le fait que Charlotte Corday n'est pas du peuple.
Peut-être, oui.
Il n'est pas du peuple. Le poignard ne ressemblait pas à celui que David a peint. Et Marat souffrait d'une maladie qui l'obligeait à se plonger dans sa baignoire très régulièrement, au fond, pratiquement tous les jours. Et il est montré en train à son dernier souffle, à son dernier soupir. Il est en train d'écrire, d'envoyer des assignats à une famille malheureuse, et sur l'espèce d'écritoire que David a magnifiquement représenté, on peut lire à la fois cette lettre qu'il envoie à des nécessiteux, mais aussi la lettre que Charlotte Corday lui a fait donner pour pouvoir s'introduire notamment dans l'intérieur et commettre
cette lettre,
son forfait.
Elle écrit « Il suffit que je sois bien malheureuse pour avoir droit à votre bienveillance
».
Lettre fallacieuse. Et en dessous, il y a, là, cette fois-ci en lettres romaines, la dédicace à Marat David.
Oui, et cette promiscuité ou cette proximité dit tout de l'engagement révolutionnaire de David. Alors il aime, David, les inscriptions, comme dirait Michel Butor, dans la peinture. Il aime écrire dans la peinture. Et on s'aperçoit qu'il y a dans sa peinture des inscriptions qui annoncent la signature, qui est une signature double. Il signe son tableau, mais il signe son engagement dans la cause de Marat.
Vous avez quelque chose à ajouter à cette description, Patrice Guénifet ?
Non, c'est certainement le plus beau tableau de David. C'est un David effectivement exemplaire de l'époque à laquelle il a été peint. En même temps, c'est le plus mensonger des tableaux, puisque tout est faux dans ce qui est représenté. Marat est presque beau dans sa baignoire. La lettre, le billet de Charlotte Corday est faux.
Pourquoi faux ?
Parce que les quelques mots ont été modifiés et ça rend encore plus atroce la démarche de Charlotte Corday aux yeux d'un révolutionnaire de traîtrise pour venir assassiner le héros. Et puis, cette affaire d'assignat est bien sûr là pour montrer un Marat philanthrope. Ce qu'il y a de plus beau dans le tableau, je suis d'accord avec Stéphane Guégan, c'est la signature. Marat David, ça a la simplicité de l'antique. Après la terreur, il a fait faire une copie et il a changé la signature, puisqu'il a remplacé cette formule magnifique par une épitaphe. « Ne pouvant me corrompre, ils m'ont assassiné ». Ce qui, bien sûr, mettait un peu de distance entre lui et un personnage devenu celui qu'on rejetait dans la Révolution. Donc tout est faux. Mais en même temps, ça témoigne surtout, je pense, des vrais sentiments d'amitié, d'affection que David a éprouvé à l'endroit de Marat et qu'il n'aura jamais pour personne d'autre. Marat a vraiment été son héros dans la Révolution.
Ah oui.
Et mon idée, c'est que s'il est devenu robespierriste, c'est uniquement parce que Marat était mort.
Oui.
D'ailleurs, avec Robespierre, il n'y a jamais eu de vraie intimité. Robespierre n'estimait pas beaucoup David et David admirait Robespierre, mais pas avec la ferveur qu'il avait éprouvée envers Marat.
Alors, nous reviendrons à cette ferveur, mais à vos deux descriptions, je voudrais ajouter celle de Baudelaire, si ça ne vous ennuie pas, parce qu'elle est extraordinaire. Le drame est là, vivant dans toute sa lamentable horreur, et par un tour de force étrange qui fait de cette peinture le chef-d'œuvre de David et une des grandes curiosités de l'art moderne, elle n'a rien de trivial ni d'ignoble. Ce qu'il y a de plus étonnant dans ce poème inaccoutumé, c'est qu'il est peint avec une rapidité extrême, et quand on songe à la beauté du dessin, il y a là de quoi confondre l'esprit. Ceci est le pain d'effort et le triomphe du spiritualisme. Cruel comme la nature, ce tableau a tout le parfum de l'idéal. Quelle était donc cette laideur que la sainte mort a si vite effacée du bout de son aile ? Marat peut désormais défier l'Apollon. La mort vient de le baiser de ses lèvres amoureuses, et il repose dans le calme de sa métamorphose. Il y a dans cette œuvre quelque chose de tendre et de poignant à la fois, dans l'air froid de cette chambre, sur ces murs froids, autour de cette froide et funèbre baignoire, une âme voltige. Spiritualisme, et il est vrai que ça a quelque chose de christique.
Absolument.
Presque une mise au tombeau.
Oui, d'ailleurs, on l'a souvent rapproché de la mise au tombeau du Caravage qu'il a vu à Rome, et globalement de la peinture du XVIIe siècle. Il a d'ailleurs peint un Christ en croix pour la maréchale de Noailles dans les années 1780. Mmh. Il a cette culture-là, il la connaît.
Ah, oui.
Il est d'ailleurs baptisé, il est de culture chrétienne. Il possède ce langage-là, il va le transposer dans l'ordre politique à la demande de ses amis conventionnels et sous la pression de ce moment terrible qui est 93-94. Il est passé à Rome dans les années 1770, devant les tableaux du Caravage, devant les tableaux des Caravagesques. C'est sa culture. Il a soigné finalement ses racines rocailles. Il est indirectement cousin de François Boucher. Il a soigné ça par de grandes doses de caravagisme. Il a toujours conservé ce goût des corps puissants, de cette présence physique des êtres. Et effectivement, comme Baudelaire l'a bien senti, Marat est superbe.
Marat est superbe.
Il vient de lâcher sa plume, mais le bras est athlétique, le corps est musculeux.
Et le visage.
Le visage est digne beau. De l'Apollon, comme dit
oui, de l'Apollon,
du Belvédère, oui. dit Baudelaire. Donc effectivement, c'est un tableau qui résume beaucoup de choses.
Et Patrice Guinifet, dites-nous justement, qui était vraiment Marat? Vous en parlez longuement dans Politique de la Terreur.
La bête.
Pour mieux comprendre cette amitié étrange entre le peintre David et l'ami du peuple.
Vous savez, l'assassinat de Marat est sans doute la plus belle scène de la Révolution. La seule qui devrait rester dans les mémoires.
Et Charlotte, bah dis donc.
Et Charlotte Corday est l'héroïne absolue de la Révolution. Qui
vous
tue la bête.
Pas de ma mort,
non.
Vous.
Non, mais oui, mais Marat, c'est la bête. C'est-à-dire, c'est celui qui, avant tout le monde, appelle à verser le sang et à égorger des gens. Qui fait chaque matin des calculs dans son journal L'Ami du Peuple, dès l'automne 89, à une époque donc où la situation n'est pas ce qu'elle sera en 1793 ou 94, et qui tous les matins fait des comptabilités macabres de gens à éliminer. Donc il représente vraiment quelque chose de maléfique dans la Révolution. Et son assassinat, de ce fait, revêt un caractère symbolique très fort. C'est pour ça que je suis bien conscient de la qualité du tableau de David, mais en même temps, il n'y a pas de falsification de l'histoire plus grande que celle-là.
D'accord.
C'est un peu comme si David avait peint le cadavre de Hitler en 1945 et que Baudelaire écrive ce qu'il écrit là sur une âme qui voltige autour. C'est exactement pareil parce que le personnage de Marat ne vaut pas mieux. C'est-à-dire que c'est réellement un monstre.
Oui, c'est un monstre. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a encore des admirateurs de Robespierre et de Saint-Just. Oui. Il y a même un lycée Robespierre à Arras. Y a-t-il des journalistes ou des intellectuels qui se réclament de l'ami du peuple?
Écoutez, si vous considérez les rangs de LFI, vous allez sans doute trouver un certain nombre de maratistes. On peut admirer Robespierre, parce que Robespierre est un personnage complexe et le bilan est partagé. Tout n'est pas noir dans l'action de Robespierre. Il y a le culte de l'être suprême, il y a des aspects moins peu connus, mais qui relèvent un peu le personnage. Et le personnage a une certaine qualité intellectuelle et humaine. Les discours de Robespierre sont de grands discours. Marat, c'est de la haine à l'état pur.
Oui.
C'est le goût du sang.
Alors comment expliquer l'amitié de David pour Marat particulièrement, parce que David, il a une autre éducation, vous l'avez souligné, Stéphane Guégan. Alors qu'est-ce qui a fait de lui ce révolutionnaire extrémiste, Stéphane Guégan, puis Patrice Guénifet?
Très tôt dans la correspondance, alors qu'il ne réagit pas à chaud aux événements de l'été 89, David manifeste un certain enthousiasme pour simplement la dynamique qui se met en place en 89. Il a, avant 89, fréquenté un milieu réformateur, qui touche souvent à l'aristocratie d'ailleurs. Il a même fréquenté les membres de la Société des Amis des Noirs, mais il n'a rien d'un jacobin à l'été 89. Ce qui lui importe, c'est son succès au Salon en août 89 et surtout son envie de retourner en Italie, donc de quitter la France, mais pas pour des raisons politiques. Et il a peint pour le gratin de l'aristocratie, d'ailleurs pas toujours libérale, de la fin des années 1780, le comte de Vaudreuil, je le disais, la maréchale de Noailles, le marquis de Bièvre, enfin bref, il est dans ce milieu-là. Et on s'aperçoit qu'il évolue un tout petit peu en 90, notamment quand il va à Nantes, à la demande de la municipalité de Nantes, et où il tient des discours sur les prédateurs de l'Ancien Régime, sur ce peuple qui avait souffert de tous les abus. Donc là, le discours change. Mais c'est véritablement son rapprochement avec le club des Jacobins, qui d'ailleurs n'était pas au départ si radical que ça, Dubois-Crancé et d'autres, qui va finalement durcir le ton et puis accepter, et c'est le premier pas au fond de son évolution radicale, le serment du jeu de paume, à la demande donc des Jacobins et puis ensuite de l'Assemblée nationale, tableau qu'il va d'ailleurs abandonner, qui est présenté donc à l'état d'ébauche dans l'exposition.
Oui, c'est très impressionnante.
Très impressionnante. Mais je dirais même que cet état, l'état dans lequel David l'a laissé, est un beau symbole aussi de la fin du premier rêve, d'une révolution qui serait simplement aboutie à une monarchie parlementaire. Eh bien, ce tableau va nécessairement le rapprocher des grands acteurs de la scène politique. Et il va finir par, au fond, rejoindre le camp montagnard. Mais il n'a pas été un révolutionnaire de la veille. C'est pas quelqu'un qui est jacobin dès l'été 89, loin s'en faut. C'est la raison pour laquelle il y avait eu, il y a de cela presque 30 ans, 40 ans, une petite dispute entre historiens, historiens américains et historiens français notamment. Les Américains tenaient pour un David pré-Jacobin, alors qu'on a pu le démontrer, à commencer par Anton Schlappberg, tout ça ne relève pas de la vérité historique. Pour résumer, ce qui est important, surtout, c'est de voir comment, entre 91 et le moment où il siège à la Convention, donc fin 92, là, véritablement, il tourne le dos à ses amis modérés.
Ah oui, c'est ça. Justement, oui. Comment vous expliquez, Patrice Guénifet, cette amitié entre Marat et David, et ensuite, nous en viendrons à ces tableaux comme le Serment des Horaces et Brutus, dont certains ont pu juger qu'ils étaient justement prémonitoires. Absolument. Alors, voyons d'abord cette amitié. Qu'en pensez-vous? Comment la jugez-vous?
Je crois qu'elle a commencé assez tôt. 1790, c'est probablement l'année tournant, parce que c'est vrai qu'en 89, il n'est pas très attentif à ce qui se passe. Et encore, je crois qu'il y a une lettre de 89 où il parle de sa production antérieure, et qui est une lettre qui ne manifeste absolument aucun sentiment révolutionnaire particulier. Sans doute en 90, il est probable qu'il est déjà membre des Jacobins à partir de février 1790, donc très tôt. Je crois que c'est la question des académies qui a rapproché Marat et David. Tous les deux avaient un contentieux avec les académies, quoique très différent, parce que David était un personnage arrivé et installé, admiré de toute l'Europe. Et Marat était un raté, en fait. Il avait eu de graves conflits avec les académies qui repoussaient ses travaux sur l'électricité. Et il en avait conçu un ressentiment définitif. Et ce qu'il y a de mystérieux dans la personnalité de David, c'est le contraste entre une réussite matérielle et artistique éclatante au moment de la Révolution, et puis un ressentiment extrêmement profond et violent contre le monde qui l'a fêté et adulé depuis environ 1785. Donc c'est ça qui les a rapprochés. Cette haine des académies, le combat de David pour supprimer les académies, combat qui monte en gamme à partir de 91-92 jusqu'à la dissolution des académies, et Marat qui poursuivait de sa haine tous les gens dont il supposait qu'ils avaient pu jouer contre lui à un moment ou à un autre. Et je pense qu'ils sont proches par le ressentiment et la haine. Compréhensible dans un cas, beaucoup moins compréhensible, beaucoup plus énigmatique dans l'autre, de la part de David, oui. Je crois.
Oui, oui. Mais maintenant, venons-en à ce qu'a initié David, donc bien avant la Révolution, à savoir le retour à l'antique, qui a touché toute l'Europe, mais qui a pris une forme particulière en France, et qu'on peut juger un peu paradoxal, au siècle des Lumières, de la critique et du progrès. Et donc c'était une rupture très spectaculaire avec Boucher, Fragonard, Watteau, avec cette douceur de vivre de l'Ancien Régime, tout d'un coup, les figures héroïques, viriles de l'Antiquité viennent au centre de la peinture qui se fait peinture d'histoire. Comment expliquer ce retournement, Stéphane Guégan?
Quand on lit la critique du Salon des années 1750-1760, on mesure l'aspiration à un renouveau des arts, qui précède donc l'arrivée de David dans le champ artistique, qui le précède, mais qui le prépare aussi. Et David a débuté d'abord en empruntant le langage de ses aînés. C'est un pur produit de l'Académie royale, David. Il a été formé par un prix de Rome, vient, et il s'est formé très tôt, après de bonnes humanités d'ailleurs, il s'est formé très tôt devant les maîtres du temps. Et comme je l'ai dit, par sa mère, il était apparenté à François Boucher, qu'il respectait. Et les premiers tableaux sont tout à fait conforme à cet héritage fragonardien, Boucher, tout ça, on le sent dans les premiers moments de l'exposition d'ailleurs. Et puis, au fur et à mesure, le langage, pour le dire comme vous, se virilise, se transforme, mais pas au point d'épouser les codes de l'Antiquité. Le retour à l'Antique est une formule finalement assez trompeuse. Parce que, quand on regarde bien les tableaux où l'on sent que David est parvenu à être lui-même, ils sont aussi caravagesques, au fond, que poussinesques. Et lui-même considérait que, au fond, la peinture devait être à la fois plus naturelle que celle de Boucher et Fragonard, et plus noble. Cette alchimie, on dirait aujourd'hui cette tension entre la volonté d'introduire une forme de vérité dans la peinture et de la rendre plus digne, plus grave, et plus vertueuse et plus noble, crée finalement cette dynamique dans laquelle il s'inscrit et dont il est effectivement le représentant le plus spectaculaire. Aujourd'hui encore, quand nous examinons le serment des Horaces, on reçoit l'électrochoc qu'ont éprouvé les spectateurs.
Le serment de fidélité à la patrie.
Voilà, le sacrifice devant, même à la patrie. C'est le vaincre ou mourir.
Devant leur père.
Voilà, c'est le vaincre ou mourir. Le vaincre ou mourir. Nous sommes en 1785. On sait que David y pense depuis le début des années 80. Donc il a la trentaine. Tout s'ouvre. L'académie, il est protégé par le surintendant des bâtiments. Bref, il est l'homme dans la lumière. Et il peint ce tableau pour le roi. Le serment des Horaces, il le peint pour le roi. Donc ça veut dire que le tableau, dans son sujet et dans son traitement, sont autorisés et justifiés par la couronne.
Cela étant, je voudrais vous livrer ici l'analyse de Marc Fumaroli, voir si vous êtes d'accord, justement sur le serment des Horaces. Il dit qu'il s'agit d'une allégorie héroïque du contrat social selon Rousseau. La régénération de l'art par la retour à l'antique travaille dans ce tableau manifeste à la régénération politique et morale de la société par le contrat. Les trois Horaces de David, dans leur éloquence muette, s'écrient déjà la liberté ou la mort. Ils feront un triomphe véritablement prophétique au salon de 1786. Que pensez-vous de cette analyse ?
Oui, je pense qu'elle est juste.
Patrice Guénifet.
Sauf sur le caractère prophétique, parce que le fait que le serment des Horaces ramène l'Antiquité, la vertu civique, le sacrifice pour la patrie, etc., sur le devant de la scène, ne veut pas dire que ça va se traduire en politique tout de suite. Donc c'est pas un tableau prémonitoire qui a été peint comme quelque chose qui voulait faire advenir une situation nouvelle. Mais il témoigne assez bien de l'état d'esprit à la fin de l'Ancien Régime, après 1750, c'est-à-dire cette société qui est partagée, pour reprendre les mots de Benjamin Constant, entre la liberté des anciens et la liberté des modernes. Et chez David, sans doute, on a les deux faces, c'est ce qui rend le peintre intéressant. La liberté des anciens, avec ses grands tableaux de peinture d'histoire d'avant 1789, et puis la liberté des modernes qui se poursuit dans son œuvre avec les portraits.
Oui,
il y a un peu les oui, deux, le contraste raison. Des deux, mais c'est plus un symptôme d'époque qui n'est pas forcément prémonitoire. Il se trouve que la Révolution a eu lieu. Et sans ce genre de tableau, ni ce genre de sentiment, sans doute la Révolution aurait pris une tournure très différente. Mais il n'y a pas de lien de cause à effet entre les deux. Mais néanmoins, il est tout à fait symptomatique d'une époque de mutation où reviennent les idées, et sans doute via Rousseau, qui a été le grand vecteur.
Et ce que dit aussi Fumaroli, par son appel missionnaire à régénérer la société et l'homme corrompu, Rousseau a chargé le thème poétique et rhétorique du retour à l'antique d'un rigorisme moral et d'une violence politique inédite dont l'influence a été énorme. Il est impossible de concevoir le Brutus de David sans une imagination enfiévrée par la prosopopée de Fabricius dans le discours sur les sciences et les arts. Alors, encore un exercice, vous allez nous parler du Brutus.
D'abord, rappelons que le civisme romain, le patriotisme romain, fait partie également du programme de commande de Louis XVI. Lui aussi, le roi et son surintendant, le comte d'Angivillé, entendent régénérer la peinture. Donc on accorde finalement à ces jeunes artistes, ce sont les jeunes espoirs de l'école française, de peindre des Romains, des sujets républicains. Ça ne semble pas du tout contradictoire avec la situation des temps. Et il ne faut pas l'oublier, parce qu'on glisse vite vers l'idée d'un pré-jacobinisme de David, si on oublie cette donnée historique. Par ailleurs, je crois David plus lecteur de Plutarque, de Tacite, de Tite-Live, de Corneille, c'est un grand amateur de théâtre, que de Rousseau. Alors on n'a pas un état de la bibliothèque de David, on aimerait. Mais en revanche, on sait qu'il est grand lecteur des historiens romains, et ça lui suffit. Et au fond, les Horaces, donc le combat entre Albe et Rome, dans ces temps légendaires, 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ, donc avant la République. Ce combat, c'est avant tout un exemple de patriotisme, plus que de liberté. C'est plutôt la patrie ou mourir, plus que la liberté ou mourir. Mais en revanche, en 1791, au salon de 1791, salon libre, David réunit autour du grand dessin du serment du jeu de paume, son Brutus et ses Horaces pour dire, voyez, j'ai tout de même, finalement, précipité les choses.
Ah oui.
Je suis un de ceux qui ont permis, au fond, l'avènement de la Révolution.
C'est... Alors, un petit mot, c'est des horaires, on voit à peu près, mais le Brutus,
Brutus,
de quoi s'agit-il exactement?
Le Brutus, donc, c'est le fondateur de la République romaine. Là, nous sommes au 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Les historiens romains eux-mêmes se demandaient comment dater la naissance de la République. Donc Brutus, c'est celui qui a chassé les Tarquins.
Oui, hein,
les rois.
Ça,
oui.
Il a mis fin à la royauté. Il est donc pour David, qui possédait d'ailleurs un buste supposé de Brutus, une copie de celui du Capitole, c'est une des figures à laquelle il s'identifie. David s'identifie à Brutus, donc le père de la République, et il a voulu, d'une certaine manière, en peinture, rendre hommage au père de la République et à la capacité qu'a eu Brutus, d'après les anciens, de pousser son patriotisme, son loyalisme, jusqu'à sacrifier ses fils qui s'étaient retournés contre lui.
Et qui voulaient remettre,
les Tarquins sur le trône. Rétablir la royauté. Donc c'est amusant. Quand on pense qu'il peint ça, il fait plus pour le roi. Comme le dit dans sa correspondance d'Angilet, vous peignez pour le roi. Eh bien, ce tableau est donc peint pour le roi. Et David tarde à y mettre la dernière main. Et voilà que surviennent les événements de 89. Alors que le salon ouvre le jour de la Saint-Louis, en août. Et donc montre, au salon de 1789, le Brutus. Alors l'exposition non seulement montre le tableau, on voit Brutus dans l'ombre, déchiré
au premier plan dans l'ombre,
Déchiré par ses décisions. On voit les corps de ses fils qui entrent à gauche.
Rapportés par les licteurs,
Les licteurs, et à droite. Et c'est là
les
où,
femmes,
où c'est les femmes. C'est l'accablement des femmes.
Et, pleurer,
femmes.
Oui.
Et le coup de génie de David depuis les Horaces, c'est la polarité. C'est-à-dire que la peinture classique unifie, et lui, il brise l'unité de l'action. On a d'un côté le pôle viril, la masculinité, et de l'autre, les femmes. Ça vaut pour les Horaces, ça vaut pour Brutus. Mais dans le cas de Brutus, lecture qu'il va d'ailleurs modifier lui-même quand il va devenir montagnard, dans le cas de Brutus, ce qui est important, c'est qu'il ne montre pas ici un homme qui, le cœur léger, a envoyé ses fils à la mort. C'est tout le contraire.
Oui.
Et donc, il pose lui-même la question du crime politique ou des excès du patriotisme avant, finalement, d'en embrasser la cause.
Enfin, en même temps, c'est pas forcément le crime politique, c'est le conflit entre l'amour et le devoir.
C'est les excès du radicalisme avant l'heure.
Patrice Guénifet, ce tableau.
Ce sont des tableaux... qui appartiennent, qui sont parlants pour tout le monde, parce que la culture des collèges, c'était celle-là. C'est-à-dire que l'histoire de Brutus, dans tous les collèges, on l'apprenait, l'histoire romaine. Et les gens qui étaient imprégnés de cette histoire romaine et de ses représentations, des idées de sacrifice, de vertu, etc., n'avaient aucunement l'idée que le monde dans lequel ils vivaient allait s'écrouler 4 ou 5 ans plus tard. Donc c'est de la politisation rétrospective de l'œuvre, par les circonstances. Et là, elles prennent... Alors, bien sûr, c'est normal que David, en 91, explique qu'il a été pour quelque chose dans le déclenchement des événements. Mais lorsqu'il a peint ses tableaux, lui-même n'a absolument aucune idée que ce monde va s'écrouler quelques années plus tard.
Et d'ailleurs Patrice Guénifet, dans le hors-série du Figaro auquel nous avons collaboré tous les deux, le rappelle, avant même que David regroupe ses tableaux en 91 pour montrer, finalement, qu'il a accouché du Nouveau Monde... En 90, à la Convention, son ami Dubois-Crancé ou Dubois de Crancé dit « C'est par vos tableaux, finalement, vos tableaux ont annoncé la Révolution ». Il accepte ce discours, d'ailleurs qu'il a en partie préparé au Club des Jacobins. Donc ça veut dire qu'à la fin 90, il est mûr. Mmh. Il est mûr pour
l'engagement.
Pour l'engagement et pour réécrire sa propre histoire. Il n'a fait que ça, parce qu'il a laissé des écrits autobiographiques. Et jusqu'au livre de son petit-fils, qui a été longtemps le plus grand livre sur David, on a réécrit cette histoire. C'est-à-dire, on a considéré qu'il avait été un révolutionnaire avant 1789.
Avant l'heure, oui.
Oui, vous savez, une observation générale, ce ne sont pas des révolutionnaires qui ont fait la révolution, c'est la révolution qui a fabriqué des révolutionnaires, à partir de 89.
Ouais. Alors, avant d'en venir à la suite de la carrière de David, un dernier mot sur ce Brutus, un mot qui est une analyse qui est celle du peintre Avigor Arica. Il décrit donc le tableau avec, au premier plan, donc Brutus, accablé, mais derrière le groupe convulsif de la mère et de ses deux filles. Et il dit ceci, qui est très beau, L'œil trouve dans ce désarroi un moment de répit, la vue paisible d'une bobine de fil gris et un ouvrage de dame dans sa corbeille. Gris sur vermillon, un contraste désuet dans cette affreuse tragédie, cette petite nature morte, une des plus belles de l'histoire d'un peinture, serre le cœur.
Oui, et d'ailleurs, Stéphane je me souviens encore d'Antoine Schlapper me disant que c'était sans doute une des plus belles natures mortes de l'histoire de la peinture et une des plus significatives, car en plus de la laine, je crois que c'est de la laine ou du fil, il y a une paire de ciseaux. Mm. Donc, David importe là la fameuse iconographie des parcs, c'est-à-dire le destin dont elle coupe le fil. Et donc, au centre de ce tableau qui va passer pour annonciateur des temps nouveaux, il inscrit la mort, la présence de la mort et la façon dont la mort va devenir une politique, finalement, par une sorte de prescience extraordinaire. Ouais. Et effectivement, ce tableau nous trouble beaucoup. Souvenons-nous, et la toile est dans l'exposition, que l'esquisse, qui est à Stockholm, montre les têtes des fils de Brutus, voilà, plantées sur des pics. Et qu'il a ensuite éliminé ce détail pour une raison qu'on ne sait pas d'ailleurs, et peut-être même pas sous la pression d'ailleurs de la couronne. En tout cas, il est allé jusque-là.
Il a pu aller jusque-là.
Et le fait qu'il ait fait machine arrière montre bien qu'il n'est pas encore dans des dispositions, j'ai envie de dire, marathistes avant 1789.
Oui. Maintenant, nous continuons le fil de l'histoire de David. Après l'épisode révolutionnaire, il devient quand même, et ça c'est pour vous, Patrice Guénifet, le grand portraitiste de Bonaparte. Il y a des portraits de Bonaparte, il y a Bonaparte à cheval, des choses qui ont contribué à la légende. Il y a le sacre de Napoléon. Alors, vous, le grand spécialiste et de la Révolution et de Napoléon, êtes-vous sensible à ces tableaux de David, Patrice Guénifet ?
Assez peu.
Ah bon ?
Mais...
Ça,
bon. Vous savez... Bon, je dis dans l'article qu'il y a des gens pour qui la prison est bénéfique. Pour lui, la prison était tout à fait bénéfique parce que ça l'a ramené à son métier de peintre après la Terreur. Et il a rencontré Bonaparte. Et il est passé au fond de Marat à Robespierre, puis de Robespierre à Bonaparte. Je pense que c'est un homme qui était fasciné par la force avant tout. Il a trouvé cette force en Bonaparte qui revenait d'Italie. Bonaparte qui a 20 ans de moins que lui, hein, qui est beaucoup plus jeune. Et il a peint sans doute il a esquissé la tête de Bonaparte, dont on dit que c'est le seul portrait ressemblant. Il a fait cette esquisse très vite. Ensuite, il a rêvé de devenir, puisque Napoléon rétablissait la monarchie, il a rêvé de devenir le premier peintre de l'empereur, mais il s'est heurté à la rivalité avec Denon, avec Daru, l'a aidé, mais jusqu'à un certain point. Bref, ça s'est assez mal passé. Mais il rêvait surtout de refaire pour Napoléon ces grandes toiles qu'au fond, il n'avait pas fait pour la Révolution. Parce que dans la Révolution, tout changeait très vite. Et il a commencé le serment du jeu de paume, qui est devenu obsolète presque aussitôt, parce que la plupart des gens qui étaient représentés
et
dessus...
Et pourquoi ne l'a-t-il pas fini, d'ailleurs ?
Mais parce que les gens qui étaient dessus étaient devenus des traîtres, donc non représentables.
Ah oui. Parce qu'il y a aussi une esquisse, un dessin du serment du jeu de paume, qui est très précis, lui.
Oui,
il y a les
tout
deux.
À fait. Ah non, il avait beaucoup travaillé, il y a travaillé pendant un an, à peu près. Mais ensuite, après le 10 août 92, la plupart des gens qui sont sur ce tableau sont devenus suspects. Impossible à représenter. Le Marat a fini dans son atelier, puisque Marat a été panthéonisé puis jeté dans un égout. Et il connaîtra malheureusement le même sort avec le sacre, parce qu'il se lancera dans la composition du sacre, mais très vite, Napoléon se détournera de cette cérémonie qui était en fait irreprésentable. Et d'ailleurs, David a choisi de représenter le couronnement de Joséphine, et non un sacre qui ne pouvait pas être représenté, parce qu'on ne pouvait pas montrer l'empereur des Français couronné par le pape, ni même se couronnant lui-même. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec les principes républicains qui étaient encore ceux de Napoléon. Donc il n'a pas eu de chance. Ces grandes toiles de commande étaient des toiles irréalisables en réalité. Alors après, il a peint effectivement le Bonaparte au Saint-Bernard. C'est sans doute la plus belle œuvre qu'il ait peinte pour Napoléon, la distribution des aigles. qui devait faire partie d'une série de quatre grands tableaux autour de l'avènement de Napoléon et de la fondation de l'Empire. Mais comme je l'ai dit, Napoléon n'y attachait en fait pas vraiment d'importance. Et puis se sont mis entre eux des querelles d'argent. Absolument. Ah bon ? Oui. David était cupide.
Ah oui. Vous l'aimez pas décidément.
Non, oui. Mais il était réellement cupide.
Ah oui.
Et Napoléon était de mauvaise foi. Vous savez que Napoléon était avare et ne voulait jamais payer. Et donc, il faisait des promesses à David qu'il n'avait pas l'intention de tenir. Il ne payait pas ce pour quoi il avait signé même un contrat. Et David réclamait plus que de raison, jusqu'à irriter le maître. Donc, des relations très compliquées.
Quand on regarde la correspondance des hauts fonctionnaires de l'Empire, des noms d'Aru, du Roc, on mesure la cupidité de David, et il ne cesse de réclamer, il veut être payé plus que les autres, plus et plus vite, il négocie tout, pied à pied. N'oublions pas que si le tableau eût été achevé, le serment du jeu de paume eût été à la fois beaucoup plus large et plus haut que la sacre, hein, que le couronnement de Joséphine. C'est véritablement un tableau qui déjà, d'ailleurs, dit quelque chose de la mégalomanie. Hein, cette mégalomanie, notamment, que l'on trouve dans les fêtes révolutionnaires. Hein, Mona Ozouf a très bien parlé de ça. D'ailleurs, David est assez vite critiqué pour les dépenses extravagantes dans lesquelles il entraîne la République lors des fêtes révolutionnaires. Et pour revenir à l'Empire...
Est-ce que vous aimez ces portraits de Bonaparte, Stéphane Guégan ?
Ah oui.
Ah oui, quand même.
J'aime à la fois le Saint-Bernard, oui. qui a bercé ma jeunesse, et puis autre chef-d'œuvre tout de même, le couronnement de Joséphine,
qui est
dans lequel, dit Napoléon, on a l'impression d'entrer, et qui est, un comme le Marat, une page de Balzac. Il y a 200 portraits. Mmh. Comme le dirait Patrice Gény, fait mieux que moi, c'est aussi un tableau qui... réécrit un tout petit peu l'événement.
Oui, mais la mère
est là alors qu'elle s'était fâchée avec Napoléon. Le pape était sans doute plus irrité que David ne le montre. Et puis, il y a les frères qui sont présents, ceux qui sont absents. Et puis, il a même rajeuni, mais il en a fait un profil divin, il a même rajeuni Joséphine.
Oui, Joséphine. Il a pris Hortense comme modèle. Hein.
Hortense, c'est qui?
C'est la fille de Joséphine.
Ah, d'accord.
Voilà. Et donc, mais la peinture, quand on parle de réécriture, de falsification, alors, l'historien a raison de noter ça. Pour l'histoire de l'art, c'est un argument qui ne tient pas, car le peintre d'histoire fait du réel sa chose. Mmh. Et il a donné à ce tableau, finalement, une ampleur, une majesté, pour reprendre votre titre, et une dimension symbolique qui font de lui, du tableau, un des tableaux les plus populaires du Louvre. Vous vous promenez dans les salles rouges, il y a toujours là encombrement. Les gens sont là, s'agglutiner autour de l'œuvre. Elle continue à produire son effet. Et puis, il y a tout le reste. Mais David n'a pas été le Lebrun de Napoléon, ses élèves autour de lui, Gérard, Giraudet, Ingres lui-même, ont travaillé pour l'Empire. Donc, d'une certaine manière, le davidisme est inséparable des années de l'Empire.
Mais en même temps, on en voit la limite, justement, dans les peintures du temps de l'Empire. Parce qu'elles ont un côté figé. Alors, c'est vrai que dans le sac, ce sont les portraits qui sont très beaux. Mais exactement comme dans l'esquisse du jeu de paume, où les têtes sont magnifiques, mais il y a un côté figé. C'est-à-dire qu'il n'a pas su, saisir la personnalité de Napoléon comme a su le faire Gros. Gros est beaucoup plus fort dans l'expression, parce qu'il sait saisir l'énergie qu'il y a dans Bonaparte, dans le tableau du pont d'Arcole. Puis dans Hello, il donne une image de l'Empire, il perçoit tout ce qu'il y a de tout ce qui est devenu horrible dans les guerres incessantes de l'Empire. Donc il y a une force une force d'expression chez Gros qu'il n'y a pas chez David, où la forme étouffe un peu le fond. Et je trouve que ces tableaux révolutionnaires sont beaucoup plus intéressants que ces tableaux impériaux, me semble-t-il.
Dans sa période révolutionnaire, il y a aussi une esquisse, c'est pas un tableau qui tranche, que je trouve très émouvant. Non, c'est pas Barat, c'est Marie-Antoinette conduite au supplice.
Horrible.
Oui, moi je me suis demandé pourquoi les commissaires ne l'avaient pas intégré à la sélection de l'exposition, d'autant plus que dans une des salles, la chose ne vous a pas échappé, on parle des agentes de l'histoire, à propos notamment de Sabine et d'Hercilly qui réconcilient concilie Rome et les Romains et les Sabins. Alors c'est un dessin qui est sinon controversé, du moins qui divise les spécialistes. Les deux plus grands connaisseurs du dessin davidien, Pierre Rosenberg et Louis-Antoine Prat, maintiennent l'attribution et je pense qu'il aurait fallu le montrer. Il aurait fallu le montrer parce que, bien sûr, Patrice Guénifié en conviendra, c'est bien sûr un élément à charge.
À charge, absolument.
À charge pour mesurer l'implication politique et la folie montagnarde de David.
Pourquoi un élément à charge ?
Parce qu'elle est représentée sans la moindre compassion.
Ah, vous trouvez ?
C'est un dessin terrible. Ouais. Donc, on lui a coupé les cheveux. Vous savez qu'on l'a décapité au petit matin. Elle est, le visage.
Elle avait 37 ans.
Le visage est blême. Elle
est
maciée. Mmh. Une sorte de rictus. Comme si, finalement, elle méritait sa mort.
Ah, moi,
alors
que
c'est une,
je
c'est
le vois
un,
pas comme ça, mais
c'est un des procès les plus iniques de l'histoire de France.
Sûr.
Et au moment où David, ne l'oublions pas, envoie à la mort par centaines, on conserve les documents.
Oui, il a signé un tiers des arrêts du Comité de Sûreté Générale.
David.
Un
oui,
tiers.
David. Et alors derrière ce dessin, il y a une histoire qui rend David définitivement atroce. Il était membre du Comité de Sûreté Générale, il a fait partie de la commission qui est allée interroger la famille royale pour avoir des preuves sur les relations incestueuses entre la reine et son fils. Donc il a participé à cette manipulation.
Ah oui.
C'est ce qui rend la chose, c'est l'acte le plus ignoble qu'il ait commis, plus encore que d'avoir insulté Danton sur le trajet vers l'échafaud. Donc il y a une histoire derrière ce dessin qui le rend encore plus horrible. Donc il contribue à la mort de la reine et le matin de l'exécution, il va à une fenêtre avec son carnet et son crayon et il fait ce dessin qui effectivement est à charge et manifeste, comme vous le dites très bien, une absence de compassion totale.
Ah oui. Je l'ai pas perçu comme
c'est,
ça.
C'est,
mais
c'est le deuxième acte parce qu'il signe, il est conventionnel, il signe la mort du roi. En janvier 93, sans sursis, sans jugement. C'est-à-dire qu'on n'accorde pas à Louis XVI la capacité de il s'est défendu. Enfin, c'est aussi un faux procès, ou plutôt un vrai faux procès. Mais il est régicide. L'acte qui consacre, au fond, son implication dans la cause de Marat et de Robespierre, c'est d'avoir voté la mort du roi.
Mais moralement, le régicide peut être compris. C'est un acte politique. Peut-être que pour fonder une nouvelle société, il fallait le condamné, peu importe. Comme les Anglais ont condamné Charles Ier à mort.
Oui.
La reine, c'est autre chose.
Oui.
Il n'y avait absolument aucune justification au fait de décimer la famille royale une fois que le roi était mort.
D'un autre côté, dans L'Homme révolté, Camus s'élève contre ce régicide, le meurtre d'un roi simple et bon. Ça n'a pas arrangé les affaires de Camus, non, la publication du livre.
Pensez au Marie-Antoinette de Stéphane Zweig.
Bah oui, bien sûr.
C'est un des livres les plus terribles sur David. Et sur la violence révolutionnaire. La page est magnifique.
Mais d'un autre côté, moi, je suis bouleversé par cette image de la reine, mais peut-être à tort, parce que je sais qu'elle va mourir. Donc, cette image, qui est à charge des raisons, suscite ma compassion. Mais
pour la reine, pas pour David.
Pour la reine,
pour
évidemment.
La reine, bien sûr.
Et pour la reine, rassurez-vous. Mais poursuivons.
Poursuivons.
Donc, à la fin de l'Empire, qu'advient-il de David ? Il a survécu à la Révolution, il a eu un passage en prison, il a voulu être le peintre de Bonaparte et de Napoléon, mais après l'Empire, devient David ?
Il est exilé en vertu de la loi d'exil des régicides au début de 1816. Louis XVIII, c'est après les 100 jours, après le retour de Napoléon qui a considérablement dégradé la situation, les régicides sont exilés. Et il prend la direction que vont prendre la plupart des anciens conventionnels régicides. Il va s'installer à Bruxelles, qui va accueillir beaucoup de régicides. C'est là où il va peindre le merveilleux portrait. Pour moi, c'est le plus fort, le plus beau, mais il n'est pas à l'expo, qui est le portrait de Sieyès, qui est conservé à Philadelphie.
Oui, assez
et
dommage,
probablement, il n'y a pas eu la possibilité de l'amener. C'est un magnifique portrait qu'il va peindre pendant cet exil qui durera jusqu'à sa mort
jusqu'à
en 1825.
Et d'ailleurs, c'est la grande période des portraits qui sont
sublimes,
d'une étrange modernité. On pense à Manet, on pense à Degas. Ce sont des portraits magnifiques qui rompent avec le style peinture d'histoire de David, Stéphane Guégan.
C'est intéressant que vous le rapprochiez de Degas et de mon cher Manet, parce que Georges Bataille, dans son livre célèbre sur Manet, a une sorte d'illumination. Il dit, mais au fond, Manet vient de David. Il y a une continuité dans la peinture française, et David, comme d'ailleurs l'écrit assez tôt Delacroix, est le père de l'école moderne. Et vous avez raison, c'est son temps retrouvé. On vient de le rappeler, il y a là des révolutionnaires, il a des membres de la famille impériale, il les peint magnifiquement avec ce génie que célébrera Baudelaire plus tard, de la vie moderne. Alors regardez, il est attentif aux vêtements, il est attentif aux attitudes, il est attentif à tout ce qui fait la modernité selon Baudelaire.
Mais est-ce que ça commence pas sous le directoire?
Quand est-ce qu'il y fait?
Oui, oui. Et même, je dirais même avant, quand on voit les deux sœurs du banquier suisse Riet, qui sont dans l'exposition, ça je dois dire que c'est un des grands moments de l'exposition, on sent déjà même tout le génie d'Ingres. C'est-à-dire qu'il est, bien le père de ce type de portrait, attentif à la réalité, à la physionomie, à la psychologie de ses modèles, et imprimant le cachet de l'époque à son portrait. On n'est pas du tout dans l'intemporalité, on est vraiment dans le présent, mais un présent, non pas idéalisé, mais rendu plus poétique par le geste esthétique même. Au moment de l'exil bruxellois, il gagne énormément d'argent en diffusant par la gravure ses œuvres. Il fait payer très cher ses portraits. Et il continue à peindre des tableaux d'histoire. Et puis surtout, il le dit, c'est un homme qui a déjà dépassé les 70 ans. Il dit « Je vais me renouveler une dernière fois.
» Ah oui.
On dirait aujourd'hui « Je vais me réinventer ». Et il le fait, avec ses scènes plus compactes, ses peintures où il introduit une sorte de cocasserie d'humour. L'amour est psyché, qui est si caravagesque, avec cet amour qui n'est plus un petit Cupidon, mais un adolescent heureux d'avoir passé la nuit avec psyché.
Mars désormais parvenu, Mars, c'est cette période.
Et oui, c'est même le dernier tableau, c'est le testamentaire.
C'est
mon dernier tableau.
C'est curieux, Mars désormais parvenu, par un homme qui a célébré les vertus viriles.
Absolument. Hein. Oui. Alors, on dirait, si on était en psychanalyse, que c'est le retour du refoulé. Et vous le disiez d'ailleurs au début de l'émission, c'est le retour aux rocailles.
Oui, c'est le retour.
C'est le retour à tout ce qu'il était supposé avoir éliminé.
Voilà.
Et ça, l'exposition le montre assez bien, par la proximité avec Gérard et Ingres, dans l'accrochage. Mais le tableau est amusant, parce que non seulement il célèbre les amours de Vénus, la déesse de l'amour, et de Mars, le dieu de la guerre, mais tout y est d'une sucrerie rocaille.
Voilà.
Les volatiles, les grâces qui nous sourient, les tons de la peinture. Et donc, on a l'impression qu'il a voulu, dans ce tableau, faire oublier aussi un peu ce par quoi il était passé pendant les années
justement,
terribles.
Mais quel a été le destin, la postérité immédiate de David? Voilà, il a voulu faire oublier quelque chose, mais les peintres romantiques, comment ont-ils jugé David? Y a-t-il eu un purgatoire pour David, Stéphane Guégan?
Alors, j'ai envie de dire que si on s'en tient au plus grand des romantiques et au plus intelligent d'entre eux, c'est-à-dire Eugène Delacroix, dès 1848, dans son article Ce Gros, reconnaît sa dette envers David.
Est
celui qui a réintroduit une forme de vérité dans la peinture. Et puis ensuite, au XXe siècle, après un moment de purgatoire, dû à son action politique, eh bien...
À la fin du XIXe,
voilà,
surtout. Hein.
Voilà. Et, on va, et sous la Troisième République, vous avez raison, il va être entièrement restauré dans sa grandeur.
Et vous, cette grandeur, pour finir, vous en pensez quoi, vous, Patrice Guénifet? Est-ce qu'il faut le restaurer dans sa grandeur?
Je crois qu'il n'en a pas besoin. Non, mais il est...
Est-ce que vous dites
c'est un grand peintre.
C'est un grand peintre, oui, mais...
Je dis dans le texte que j'ai écrit, dis à la fin... Il ne faut jamais oublier qu'il a été le plus grand peintre de son temps, c'est vrai. Et donc, de ce point de vue-là, il a pas besoin d'être... Enfin, il ne faut pas le jeter aux oubliettes. Il reste le grand peintre d'une époque. Et sans doute, l'héritage existe. Il n'y a pas eu de continuateur, au sens où c'était une peinture tellement identifiée à une époque par la Révolution qu'elle ne pouvait pas subsister au-delà. Alors, ce qu'il en reste aujourd'hui... Bon, pour moi, personnellement, ce qui reste, ce sont les portraits, surtout.
Ah oui.
Et puis les tableaux d'avant la Révolution, les Horaces, et puis les Sabines, pour lesquels j'ai une tendresse particulière, parce que c'est le tableau de la période thermidorienne de David. Il est passé, au fond, par toutes les métamorphoses.
Oui, oui.
Peintre d'histoire sous l'Ancien Régime.
Il est assez opportuniste, en fait, ou non? Ou c'est un homme de conviction
Je crois pas.
Ou un homme de calcul?
Non, je crois que c'est un homme qui s'est engagé par fascination pour un certain nombre de personnages. Je crois qu'il a su exprimer l'air du temps. à la fois avant la Révolution, avec les débuts du néoclassicisme, avec le Marat sous la Terreur, avec les Sabines qui expriment bien l'atmosphère de Thermidor et l'illusion de la réconciliation. Il a été moins bon, c'est là que je trouve qu'il est le moins bon sous l'Empire. Et ensuite, il peint des portraits qui expriment assez bien l'époque de la Restauration. Donc je crois que de ce point de vue, il reste, parce qu'il a été le peintre d'époques successives et avec des esthétiques très, très différentes à chaque fois.
Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, globalement. Oui.
Il aura à la fois écrit l'histoire et réécrit la peinture.
Très bien, voilà. C'est une magnifique conclusion. Oui, merci beaucoup Stéphane Guégan, Patrice Guénifet. Alors, vos deux textes sur David se trouvent dans le hors-série du Figaro, « David, un monde nouveau ». Stéphane Guégan, vous publiez aux éditions Gallimard « Matisse sans frontières ». Je rappelle aussi, Patrice Guénifet, votre livre « Politique de la terreur », disponible chez Gallimard dans la collection « Tell ». Et je signale également que l'exposition David au Louvre est présentée jusqu'au 26 janvier 2026. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Roxane Nata, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui Adrien Gaza. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Les Juifs et la France. Mes invités seront Bruno Carsanti et Denis Oliven, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.